Petite voix, laisse-nous emprunter ton nom, toi qui jamais ne nous quittes ni ne doutes et nous plonges dans l'insomnie vagabonde.
Guide devant la complexité du monde et boussole dans les choix de chaque route, tu restes et demeures un fidèle compagnon.
Et bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier podcast de La Petite Voix. On va parler aujourd'hui de plusieurs choses. On va avoir, une fois n'est pas coutume, 5 petites minutes pour parler de ce qui s'est passé au mois de décembre. Donc le format va être un peu différent ce mois-ci. Ensuite, on prendra un petit peu plus de temps pour parler du bilan 2022, essayer de voir qu'est-ce qu'on a réussi à faire par rapport aux objectifs qu'on s'était donné l'année dernière. Ça nous permettra ensuite de nous projeter un petit peu sur 2023. Qu'est-ce qu'on a déjà commencé à faire, mais qu'est-ce qu'on prévoit de faire sur cette nouvelle année. On vous expliquera un petit peu quel est l'avenir du podcast de Cette Petite Voix. Et donc, bonjour ma puce.
Bonjour à tous.
Est-ce que tu veux commencer à parler de décembre? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi en décembre?
À décembre, c'est Noël. Donc, c'est alors pour moi un mois qui est de plus en plus difficile à vivre. Autant j'adore les calendriers de l'Avent et j'ai vraiment une passion pour ça parce que je trouve que voilà, c'est intéressant de se préparer à quelque chose. Autant cette consommation excessive, tout ce qui se passe autour de Noël, c'est vraiment difficile pour moi. Moi j'ai bien aimé, j'ai réinventé le calendrier de l'Avent qui était quand même tourné beaucoup sur la consommation de gourmandises et de petits trucs. Là, je l'ai plutôt... on a fait avec les enfants un petit tour d'Europe des traditions autour de Noël. Et puis, on a transformé ça plutôt en activité de famille. Donc, des jeux ensemble, des temps communs, des temps de partage. Et voilà, moi, j'ai bien aimé ce format-là. Je te laisse parler de Noël, du coup, le jour J.
J'ai écrit un petit article sur notre blog, d'ailleurs, si vous ne l'avez pas lu concrètement, il n'y a pas eu de cadeau cette année. C'était un challenge important, gros quand même, parce que on n'avait pas envie d'alimenter le truc, de acheter des choses dont on n'a pas besoin, parce que très clairement nos enfants ils dégueulent de cadeaux de partout, enfin de cadeaux de jouets en tout cas, ils manquent de rien et à aucun moment. Donc là du coup on s'était dit vas-y, on essaye de pas faire de cadeaux, quoi, ça a pas de sens, on n'en fait pas. Par contre, comment on fait vivre une super journée, un super moment, donc avec Solène, ma sœur, et sa famille, qui sont venus passer Noël avec nous. Et puis, c'était pas un déballage de cadeaux où on est content ou pas content de ces cadeaux, etc. Là, c'était une expérience où on a voyagé pendant 2 jours, voyagé par l'imaginaire. Mais du coup, on a organisé, c'est peut-être parce qu'on est animateur, on a la fibre de l'animation en nous, mais en tout cas c'était assez facile, c'était agréable aussi de voir que les enfants ils adoraient ça. Ils n'ont pas du tout été frustrés, peut-être parce qu'on les avait un peu... je ne sais pas si on leur avait dit qu'il n'y aurait pas de cadeau du tout.
Quand même préparer le fait que ça ne ressemblerait pas du tout... on n'avait pas fait de liste au Père Noël, on n'avait pas alimenté en tout cas cette machine de Noël. Donc forcément, je ne sais pas quelle attente ils avaient, mais en tout cas... Le fait de ne pas faire de liste, on ne crée pas d'attente ni de besoin aussi. Enfin, voilà.
Ouais, mais même, tu vois, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout été étonnés de ne pas avoir de cadeaux, tu vois. Enfin, ils sont descendus, ils ont vu la table recouverte avec... quand on a enlevé le drap, ils ont vu un maxi petit-déj. Et puis après, tout a déroulé... Tout s'est déroulé comme prévu, entre guillemets, mais ils n'ont pas été étonnés ou déçus ou quoi que ce soit. Au contraire, ils nous ont dit à la fin de la journée que c'était peut-être le plus beau Noël, ou je ne sais plus la formule qu'ils ont dit, mais en gros, ils étaient hyper contents, quoi.
Après, je pense que c'est peut-être la formule qui n'est pas bonne. En fait, il y a eu un cadeau, c'est-à-dire qu'on a offert du temps et de l'expérience ensemble, en fait, des choses qu'on ne fait pas forcément dans le quotidien. Enfin, là, on a vraiment passé... les 24 heures de Noël, parce qu'on a commencé le lundi matin, on a fini le mardi soir. On a passé ce temps-là 100% avec eux, que pour eux, que pour faire du temps ensemble.
Et des choses qu'on ne fait pas d'habitude, par exemple manger, ok, sur des trucs qu'on ne mange pas d'habitude, les fruits exotiques, etc. Mais c'est aussi aller au cinéma, c'est aussi jouer aux jeux vidéo ensemble. C'est de l'éclat, quoi. C'est du casino en mode la roulette et tout. Donc c'est des trucs qu'on ne fait jamais. Donc forcément, tous ces trucs-là, c'est un peu excitant et c'est un peu insolite, quoi.
Et puis, tu vois, la piñata, bon, bah, des bonbons, c'est pas quelque chose, on n'en a pas non plus au quotidien. En fait, je pense que le fait qu'on ait sorti aussi, beaucoup de choses peut-être du quotidien fait que ça le rend exceptionnel. Parce que, voilà, oui, en effet, on consomme pas de clémentine ou d'orange au quotidien. Donc, quand t'en as le jour de Noël, bah, t'es content parce que. Et même moi, j'étais contente de manger des oranges. Enfin, ça faisait hyper longtemps que j'avais pas mangé d'orange. Et c'est vrai que voilà, ça a du sens. Et c'est peut-être la rareté qui fait aussi qu'on est content de trouver ça. Voilà, c'est vrai que quand tu consommes du chocolat tous les jours, bah, c'est pas Noël, quoi. Enfin, voilà. Par contre, quand bah, t'as la pâte à tartiner le matin de Noël et que ça fait 6 mois que t'en as pas eu, bah oui, il y a un côté, t'es content de l'avoir, quoi.
Donc, ça fait 5 minutes. Et ouais, on peut dire un dernier truc, c'est par rapport aux toilettes sèches, on les a encore un peu tunées et du coup on a mis le séparateur d'urine, ce qui fait que c'est juste abusé à quel point on consomme plus du tout de sueur et en termes de manutention c'est beaucoup plus intéressant parce que du coup on a juste un petit bidon à vider, un bidon d'urine de 20 litres à vider chaque semaine et puis c'est tout quoi, après le reste c'est une petite poignée de temps en temps dans le truc, mais c'est beaucoup moins consommateur en sueur. Pour tous les petits pipis, bah, il n'y a plus rien à faire, quoi. Donc ça, c'est très, très cool.
C'est cool en termes de... Avant, on vidait tous les 2 à 3 jours. Là, on vide plus qu'une fois par semaine. Et encore, on vide parce qu'on ne veut pas que ça sente mauvais. Mais ça sent aussi beaucoup moins, en fait. Enfin, même plus du tout. Le mélange urine et caca, ça pouvait sentir mauvais plus vite, en tout cas. Là, aujourd'hui, oui, c'est vrai que même en vidant une fois par semaine, voilà, ça n'a pas de conséquences... Donc ouais. Alors après, t'as fait une transition rapide, hein. Juste sur Noël, n'hésitez pas à les lire voilà, sur le blog si vous voulez compléter. Voilà. Au mois de décembre, peut-être, je finis sur une petite lecture. Moi, j'ai lu au mois de décembre Le Bug Humain. Alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un livre sur le fonctionnement du cerveau, comment notre cerveau nous pousse à détruire la planète et comment l'en empêcher. Alors, c'est surtout comment, pourquoi notre cerveau nous pousse à détruire la planète. C'est plutôt cette partie-là qui est abordée. Comment l'en empêcher, c'est abordé en 3 pages à la fin. Donc, j'étais un peu déçue sur ça parce qu'il n'y a pas trop de pistes. Après, il annonce un deuxième opus, donc peut-être qu'il y aura voilà, une suite. Le premier, Le Bug Humain, il date de 2017, donc je sais pas, là on est 5 ans après, peut-être que voilà, il y a des choses qui vont arriver. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il repart. Alors, je vous le conseille vraiment, hein, c'est la lecture est assez aisée, hein, même s'il y a beaucoup d'études scientifiques, voilà, ça se lit bien, ça a été assez bien vulgarisé. Et il repart en fait de ce qui se passe dans notre cerveau depuis l'homme préhistorique et comment en fait ça a intégré des habitudes et notamment le fait que l'homme préhistorique, il était obligé pour sa survie de vivre dans l'instant présent et il explique en fait quel impact ça a aujourd'hui, en fait le fait que voilà, et il parle de 2 choses intéressantes. Alors le cortex qu'on connaît très bien, hein, qui est la partie cérébrale de notre cerveau, celui-là on le connaît plutôt bien, et il parle aussi du striatum qui lui est un peu la partie de notre cerveau qui va générer de la voilà du plaisir, du fun, voilà. Et en ce moment dans notre société, tous les grands de Facebook et autres voilà ont bien compris comment Stratium il marchait et comment voilà l'alimenter. Et voilà, c'est hyper intéressant de se rendre compte des mécanismes en fait de ce qui se passe dans notre cerveau. Je vous parlais tout à l'heure que décembre c'est un mois qui est compliqué pour moi parce que j'ai l'impression que tous les gens sont fous autour de moi et voilà et du coup ça me met en colère et là me dire que bah en fait il y a des choses qui sont dans notre cerveau depuis longtemps et qu'en fait on maîtrise pas tout, hein, tout n'est pas conscient. Voilà, ça m'a aidé à être peut-être plus empathique. Voilà, je sais pas comment le dire, mais en tout cas ouais, c'est une lecture que je vous conseille, c'est très intéressant. J'ai prévu de faire un petit article sur le blog là-dessus, sur la force de l'instant présent. Ouais, mais je ne sais pas quand j'aurai le temps de le faire, mais c'est un objectif que je me suis fixé, donc ça devrait arriver.
Ok, comme prévu, on passe à la petite rétrospective de 2022 avec donc plusieurs parties dont on est assez content. Le premier sujet, je te laisse nous l'expliquer, Marion.
Eh ben, on a l'impression cette année d'avoir réinventé vraiment la notion de vacances. Alors déjà, on est quand même parti en vacances. On a vécu des temps de vacances, mais vraiment très différents des autres années. Notamment, on est allé à Marseille et on a fait le choix de voyager en train avec les enfants, ce qui est un peu un challenge quand même. On avait débriefé là-dessus sur le podcast de mai. Fin d'avril, pardon. Et voilà, ça c'était déjà une partir loin, mais ne pas en profiter pour saccager la planète au passage. Voilà, ne pas utiliser les énergies fossiles pour partir loin ou en tout cas limiter notre impact carbone. Après, on est parti cet été un peu à Noirmoutier, enfin un peu beaucoup. Moi, j'étais presque un mois à Noirmoutier. Léni est venue sur des week-ends. Et voilà, l'idée de, enfin moi, ce que j'ai bien aimé dans ces vacances à Noirmoutier, c'est le retour au minimum syndical, hein. Je sais pas, alors certains de mes contacts connaissent Noirmoutier, mais on est vraiment sur un terrain qui appartient à mon grand-père, sur lequel il y a l'eau et l'électricité, mais il n'y a pas de maison, il n'y a pas de structure en dur, enfin voilà, il y a un petit cabanon avec une douche et puis un espace pour cuisiner, enfin un espace pour cuisiner, voilà, un endroit où il y a un réchaud, voilà, c'est assez limité, et moi j'ai trouvé en fait que c'était... Ça me rappelle un peu mes camps scouts, hein, donc je revis un peu ces années-là. Et puis, je trouve que être libéré de tout le rangement, nettoyage de la maison, enfin tout ce qui passe par l'entretien au quotidien de la maison, moi j'ai trouvé ça très chouette. En fait, c'est juste prendre le temps de faire du vélo, aller à la plage. Non mais voilà, c'est vrai que ça libère de tout ça aussi, et je trouve que ça va permettre de vivre des temps avec les enfants. Voilà, c'est aussi il n'y a pas de four là-bas, donc ça veut dire cuisiner au four solaire. Enfin voilà, c'est se réapproprier. Alors, au mois de juillet en plus c'était top, hein, il a fait hyper beau, on a eu je crois 4 gouttes de pluie sur un petit déj un matin. Enfin voilà, c'est vrai qu'on a été dans des conditions qui étaient quand même l'idéal pour vivre dehors. Mais n'empêche que je trouve que c'est très ressourçant. Et moi, par rapport à l'été d'avant, où on n'a pas eu beaucoup de soleil, je trouve qu'après, repartir sur la rentrée, quand t'as passé un mois dehors, en fait, c'est super chouette. Et puis, on a réinventé les vacances aussi, parce que sur les vacances de Léni, donc au mois d'août, on a fait le choix de rester à la maison, donc de passer du temps à faire des choses dans la maison qu'on n'a pas le temps de faire avancer le reste de l'année. Et en fait, ça aussi, j'ai trouvé ça assez reposant, dans le sens où à la maison, il n'y a pas de... Enfin, voilà, en termes de surveillance des enfants, c'est calé, l'espace, il est clos, on est chez nous, chacun a ses habitudes, ses endroits où il va, enfin, ça, c'est assez simple. Ça permet de prendre du temps pour... Enfin, cet été, j'ai vraiment eu le temps de faire les bocaux, hein, tous les bocaux, que ça soit de la compote, de la ratatouille. On a pu bricoler, la cabane. On a pu faire un bureau pour les enfants, là, dans la chambre. Enfin, voilà, vraiment prendre le temps de s'approprier la maison, de vivre des choses dedans et d'être prêt aussi pour des moments... Enfin, voilà, quand à la rentrée, le bureau, il est prêt, on est parti sur autre chose. Moi, j'ai trouvé ça très sympa et ça me donne envie de rester aussi... à la maison, d'avoir j'ai 1000 projets pour l'année à venir, hein, la verrière par exemple, on en parlera tout à l'heure, mais voilà, il y a plein d'idées, il y a encore des choses à faire. On a une maison qui est super, on a la chance d'avoir un espace qui est vraiment chouette, et voilà, passer du temps dedans, c'est aussi des vacances sympas, quoi. Enfin, c'est pas fuir son chez soi pour être en vacances. Donc voilà, c'était notre premier point, réinventer les vacances.
Ouais, le deuxième, ça rejoint un petit peu ce dont on a parlé tout à l'heure, c'était la période de Noël, qu'on a réussi à être beaucoup plus apaisé par rapport au Noël précédent. Le fait d'avoir zéro cadeau, le fait d'avoir recentré sur le vivre ensemble, comme on expliquait tout à l'heure, sur le côté expérience, les valeurs de Noël, c'est quoi ? Est-ce que les valeurs de Noël, c'est de dépenser son argent ? Ou est-ce que c'est de passer du temps avec ceux qu'on aime ? Le fait qu'on ait fait zéro déplacement, c'est aussi assez cool. Donc cette phase-là était assez chouette. On était assez fiers quand même, comme on vous en a parlé tout à l'heure. Et du coup, je sais pas si c'est à mettre au même niveau que réinventer les vacances. Mais en tout cas, quand on sait à quel point la période des fêtes est désastreuse pour l'environnement, c'est pas mal en fait. Ça permet de se dire que un des gros points noirs de l'année peut être gommé sans sacrifier, voilà, sans créer de frustration, sans se...
On parlait de la nourriture, on a quand même, même si on n'a pas consommé de, je sais pas, fruits de mer, tout ça, enfin voilà, on n'a pas consommé les produits classiques du Nouvel An ou de Noël, on a quand même pris le temps sur les deux soirées du Nouvel An et de Noël de cuisiner des plats végétariens qu'on fait jamais, de trouver des recettes qui nous donnaient envie, qu'on avait envie de cuisiner. On a passé, je sais pas, 2-3 heures à chaque fois en cuisine. Voilà, on a pris le temps de cuisiner des choses qui nous faisaient envie et on a apprécié partager ces temps-là. Donc, et on n'était qu'avec des produits frais, locaux, de saison. Enfin voilà, on n'a pas mangé des trucs délirants. Donc ça, c'était aussi agréable, voilà, de se dire qu'on pouvait. Je crois que c'est le premier Noël hein, où on fait ça, où on réinvente vraiment la façon de manger. Et je trouve que ça, c'était agréable, tu vois, de faire des recettes qui n'étaient pas forcément compliquées, mais qui prenaient un peu de temps quand même.
C'est vrai que j'ai pas le souvenir des années précédentes, en fait, mais on cuisinait quand même. Mais là, je sais pas, il y a eu un truc. On a tous cuisiné, on a préparé en amont vraiment un truc chiadé, tu vois. Les petits plats dans les grands, on s'est fait. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à cuisiner, quoi, en tout cas. Bref, en tout cas, on peut s'arrêter sur Noël parce que ça fait une double couche là, mais en tout cas, très chouette. Et puis, si vous voulez en discuter un peu plus précisément, etc., bah, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message l'année prochaine parce que là, bon, on est tous contents d'être passés à autre chose, je pense. Le troisième sujet, troisième gros dossier de cette année, c'est quand même. Encore, on a progressé sur notre impact écologique. On a réduit énormément, mais genre, même si on n'avait pas une utilisation excessive de la voiture, là, elle est quasiment nulle. Quasiment parce qu'on est encore obligé pour le foot, par exemple, de team. Mais je crois que c'est quasiment le seul truc où on prend la voiture.
Encore les réunions scouts, mais du coup on est en covoiturage, enfin, on s'arrange, ce qui fait qu'on remplit une voiture avec 4 enfants, donc ça,
voilà, et
ça...
on est 9 hein, ouais. Quand on y va, parce qu'on emmène des enfants de Gétigné aussi, donc ça vraiment c'est assez chouette parce que jusqu'à présent, même l'année dernière encore, genre quand il y avait du gel ou quand il y avait du givre ou des choses comme ça pour voilà, Ça pouvait arriver d'aller à la gare en vélo, en voiture. Là, c'est plus du tout une habitude. Quand on allait faire des grosses courses de vrac, tac, on prenait la voiture. Là, du coup, ça le fait, quoi. C'est juste un petit peu difficile, et encore. Mais on est dans la force de l'âge et tout, donc il n'y a aucun souci à le faire. Donc ça me fait assez plaisir d'être passé à autre chose. Quand on était à Montréal, on n'avait pas de voiture, on faisait tout comme il fallait. Là, on a un peu moins de transport en commun, c'est vrai. Mais ça se fait, quoi, ça se fait très bien.
Ouais, après, là, on a été confrontés. Alors, il y a eu une semaine compliquée de train, alors sur janvier, hein, je déborde un peu sur 2023, mais où le lundi, donc les trains sont pas passés parce qu'il y avait une tempête la veille. Et donc, du coup, il y avait ma ligne, en fait, était coupée. Donc, j'ai pas eu de train le lundi. Le mardi, mercredi, ça a roulé normalement. Jeudi, c'était la grève. Et vendredi, il y a le grêle. Vendredi, il y a le gel, donc ils sont pas passés. Et c'est vrai que, alors moi j'ai posé un acte fort, hein, du coup je suis pas allée bosser le lundi, c'est-à-dire que j'ai appelé le lycée en disant que bah voilà, j'avais pas de moyen de transport, ce qui était vrai, ce qui était vrai parce qu'on a prêté notre C4 à Solène, donc la sœur de Lénie qui avait besoin d'une voiture, et puis on a le camion qui est en rade, donc en fait j'avais pas de moyen de transport, donc le lundi je suis pas allée bosser, au final ça fait que sur les 3 semaines qui arrivent, j'ai des cours qui ont été rajoutés, parce que les 6 heures de cours que je devais faire le lundi 16 janvier, bah du coup elles ont été reporté sur les semaines à venir. Donc voilà, c'était un acte fort de poser. Et après, j'avoue que le vendredi, bon, ça m'a. Voilà, j'ai quand même pris la voiture. J'ai demandé à Nicole et François, qui sont nos voisins, nos petits vieux qu'on adore. Et voilà, et j'ai emprunté la voiture de François parce que c'était quand même compliqué dans la même semaine de ne pas aller bosser 2 jours. Sur les 3, je bosse que 3 jours à Cholet. Donc voilà. Là, c'était compliqué. Et en même temps, je me suis dit, le vendredi matin, déjà, je me suis fait peur sur la route à plusieurs reprises parce que j'ai glissé et parce que c'était dangereux sur les routes. Et je me suis dit, en fait, quel est l'intérêt de se mettre en danger pour aller bosser sur Voilà, moi j'ai un métier qui, enfin, je sauve pas des vies, hein, je suis pas médecin, je suis pas pompier, enfin, voilà, si je vais pas bosser pendant 4 heures, ben au final, ça se reporte, enfin, tout est possible, donc, voilà, ça, enfin, en tout cas, moi je trouve que j'ai envie de poser cet acte fort, de me dire, bah, si c'est pas possible d'aller bosser, bah en fait, j'y vais pas, quoi. Enfin, si c'est pas possible d'y aller dans des conditions... voilà. Bon, j'ai la chance d'être dans un métier où je perdrai pas mon boulot parce que je pense qu'il y a des adaptations possibles. J'en ai discuté avec ma direction. Il y aura sûrement des adaptations possibles avec la visio. Voilà, si vraiment je me retrouve sur un autre événement de ce type où vraiment il n'y a aucun moyen d'aller à Cholet. Donc voilà, mais je trouve qu'en discutant, on arrive aussi à trouver des solutions, on arrive à, voilà, à poser le fait que bah, aujourd'hui, en fait, c'est un fait, depuis 3 semaines, nous n'avons pas de voiture à la maison. Donc on n'a pas de plan B, en fait. C'est, voilà, c'est un fait qui est posé. Mais du coup, je discutais avec Mathilde et François, que je suis allée voir il n'y a pas longtemps, qui eux n'ont pas de voiture. Donc c'est des copains nantais, et qui eux n'ont pas de voiture au quotidien. Et en fait, c'est intéressant. Donc ils vont avoir un bébé là dans les semaines à venir. Et ils m'expliquaient qu'ils ont, ils avaient un baptême, je crois, de prévu en avril ou mai du côté de Lyon. Et en fait, ils ont fait le choix du coup de pas y aller, de se dire bah en fait on n'y va pas parce que en train avec un bébé, bah c'est pas, enfin voilà, c'est complexe. En tout cas, on se sent pas de le faire. Et bah on veut pas louer une voiture pour traverser, pour voir des gens. Que, en fait, on va voir un mois plus tard un autre baptême à côté de chez nous, quoi. Donc, voilà. Et du coup, je me dis, bah, en fait, oui, peut-être que c'est ça le truc qu'il faut poser, c'est se dire, est-ce que c'est possible de le faire proprement ? Si c'est pas possible, si c'est... Voilà. Et bah, on le fait pas, en fait. Enfin, voilà. Non, mais il y a des choses là-dessus aussi à réinventer. Voilà, un autre point.
Y a un point qu'on a fait, dont on est assez content quand même, parce que c'était un point noir depuis qu'on est arrivé dans la maison, c'est la chaudière à fioul. On a enfin réussi à s'en sortir. On l'a débranché.
Du coup, on n'a plus de chauffage.
Du coup, plus de chauffage. Non, mais c'est vrai.
Ah bah, tu réduis l'impact
carbone. C'est vrai, plus de chauffage. Après, on a quand même l'eau chaude qui est gérée, parce qu'on a mis du coup un ballon d'eau chaude qui est alimenté par deux panneaux solaires. Et si besoin, ça va chauffer à l'électrique, si jamais, voilà. Mais c'est, de toute manière, c'est un petit, hein, c'est un combien de litres, peu importe. Mais voilà, on a mis un petit ballon, et histoire de se dire que, voilà, au pire, on n'avait plus d'eau chaude, mais par contre, il est hors de question qu'on allume une bagnole dans le sous-sol pour chauffer notre eau, quoi. C'est dingue, les chaudières à fioul. Bon, bref. Donc ça, c'est très, 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 très cool. Moi, perso, je dors mieux depuis. Le vrai gros truc, quand même, c'est le remplacement des fenêtres et l'isolation des combles qu'on a fait en début d'année, qui fait quand même beaucoup de bien aussi par rapport à quand on chauffe avec la cheminée.
Sous, mais...
Ah ouais. Ouais, ouais, bah c'est ça, hein. Toutes les économies y sont passées. Et puis on voit bien, on a une inertie un peu plus forte quand même. Spoiler pour 2023, c'est sûr qu'on a encore des travaux encore à faire pour faire en sorte que notre maison passe de la passoire thermique à la maison efficace énergétiquement. Mais déjà, il y a du mieux, donc on peut se féliciter de ça.
Oui, on a vraiment l'impression cette année d'avoir diminué la partie achat, c'est-à-dire achat de, bah, déjà de trucs neufs. Quand on achète, on essaye de passer le plus possible par la seconde main. Et puis aussi de se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin ou est-ce que c'est juste une envie ? Parce que clairement, bah, on a les moyens de se faire plaisir aussi. Et des fois, bah, y a juste des envies qui passent. Là, c'est la période des soldes et on peut être tenté par un truc. Ah, super, c'est passé de 20 à 10 euros. Bah, je vais l'acheter. Et en fait, voilà, ça, je crois que ça y est, on n'est plus... En tout, ouais, véritable histoire. Hein. J'ai vu un chèche rose qui était trop beau la semaine dernière et je me suis vraiment posé la question, est-ce que j'en ai besoin ? Et ben, en fait, non, pas du tout, parce que j'en ai déjà 15 dans un placard. Et oui, en effet, j'ai peut-être pas exactement la même teinte, mais je pense que je peux m'en sortir avec les autres couleurs que j'ai. Et voilà, je pense que ça, on le pose en tout cas plus consciemment. On se pose la question, voilà, est-ce que ça a vraiment une utilité ? On achète encore des choses pour la maison, hein, notamment voilà, sur des choses de bricolage, des choses pour améliorer l'intérieur, mais... Voilà, sinon on est aussi beaucoup dans la récup, enfin sur les fringues, sur beaucoup de choses. Voilà, l'idée c'est pas de manquer de trucs, hein. Je pense qu'on est loin de manquer, mais c'est de se poser la question, est-ce qu'on en a vraiment besoin, quoi.
Ouais, et par rapport à ça, il y a quand même on bricole de plus en plus aussi, donc on est capable de fabriquer de plus en plus de choses. Les bureaux des gars par exemple, on n'a pas été acheter un truc à IKEA comme on aurait pu le faire il y a quelques années encore, tu vois. Ça, c'était clairement un truc qu'on faisait. Ça, moi, je m'imagine plus du tout faire ça aujourd'hui. On pose des plans, on va acheter du bois, et puis on fait quelque chose qui a du sens, qui a de la qualité, enfin, qui a de la qualité environnementale, etc. Et puis, on est fiers de ça.
Il y a aussi, alors là, avec Hélène et Thibault, on a coupé les branches du tilleul. Et en fait, je pense qu'il y a quelques années, on serait parti à la déchette et déposer tout le stockage. Et en fait, là, voilà, on a déjà l'idée d'en faire quelque chose pour le potager. Donc, on les a stockés. Ils sont, toutes les branches de tilleul vont être réutilisées pour d'autres projets. Et voilà, ça, c'est des choses qui font que il n'y aura pas besoin d'acheter des bacs pour le potager. En fait, on va pouvoir réutiliser de la matière première qu'on a déjà chez nous. Pourtant, on n'a pas gros d'espace, on a 800 mètres carrés, mais il y a déjà de la matière première sur notre terrain qu'on peut réutiliser, quoi. Donc ça, c'est chouette aussi.
Et puis, un petit peu relié quand même à cette histoire d'achat et de matériel utilisé, en tout cas, c'est que ça y est, on n'a plus de smartphone du tout à la maison. Marion, elle avait réussi à être précurseur, et puis ça fait déjà un an qu'elle a plus de smartphone, mais moi ça y est, j'ai réussi à passer à l'acte grâce à mon téléphone qui a rendu l'âme, et voilà, on a tous les deux, en plus j'ai même pas fait attention, j'ai acheté exactement le même qu'elle, du coup c'est chiant parce que j'ai été obligé de mettre un autocollant dégueulasse dessus pour savoir que c'est le mien, parce qu'il n'y a aucune moyen de les customiser, en plus ils sont vraiment identiques, c'est des vieux Nokia pourris, enfin c'est des récents, hein. C'est des Nokia classique, ils font téléphone quoi. Et SMS. Non mais voilà.
Et alarme.
Et lampe de poche. Non mais en vrai, ils font tout ce qu'il y a besoin. Et puis honnêtement, j'ai aucun. Au contraire, je suis assez content de me rendre compte très souvent que j'ai ce putain de réflexe quand je m'emmerde de prendre mon téléphone, de l'allumer et de voir qu'il n'y a rien à faire dessus. Pouf, je le repose, je le remets dans ma poche et puis voilà. Et la batterie qui dure 2 semaines, c'est trop, trop vivant. Bon bref, en tout cas, hyper content. Et puis c'est aussi, au-delà du côté personnel, c'est le côté de montrer que c'est possible. À nos enfants d'abord, en premier lieu, parce que on est toujours à leur dire gna gna gna, les écrans, gna gna gna, gna gna. Sauf que si t'es sans arrêt en train de dire ça, et puis sans arrêt en train de regarder ton écran et balayer Facebook, ça sert à rien, quoi. C'est complètement stérile, et puis au contraire, c'est un petit peu hypocrite. Donc là, on s'accorde, on s'aligne avec ce qu'on dit, ce qu'on fait, et puis c'est assez cool. Et puis après, il y a évidemment les gens avec qui on parle toute la journée, un peu partout. Le fait de travailler dans la tech et de pas avoir de smartphone, c'est aussi un acte un peu fort quand même, parce que moi j'y trouvais beaucoup d'excuses par rapport à tout ça, hein. Oui mais j'ai besoin de la 4G quand je prends le train, j'ai besoin de je sais pas quoi, j'avais rien besoin en fait, j'ai un ordinateur, j'ai souvent internet, donc tout va bien pour ça, donc très très content.
Après le pas de smartphone, hein, j'en avais déjà parlé, mais ça oblige aussi à se reposer les questions, enfin voilà, tu pars, là t'es parti 2 jours à Amiens, oui en effet t'arrives dans une ville que tu connais pas et il faut faire 100. Enfin voilà, c'est moi je racontais la dernière fois que je suis allée au Mans, donc je suis partie au Mans pour la journée, j'étais en formation, j'arrive au Mans, j'avais préparé ma pauvre carte via Google Maps et ça marchait pas très bien, enfin voilà, mon impression était pas terrible. Je suis passée à l'office de tourisme pour demander une carte quoi. Donc voilà, la dame elle me dit vous voulez faire quoi au Mans? Rien du tout, juste aller de la gare à mon point de formation, voilà, c'est clairement je trouve que c'est voilà, ça repositionne le fait qu'il faut anticiper peut-être des choses, et puis ça permet de sélectionner ce qui est vraiment important et ce qui l'est pas aussi. Voilà. Puis oui, l'exemple par rapport aux enfants, moi je trouve que c'est vraiment le top du top, quoi. Leur montrer que en fait, on n'a pas besoin de ça. Et voilà. Et c'est très rigolo, enfin on en parle souvent avec Lenny de voir les gens, enfin nous on prend le train tous les jours pour aller bosser, et de voir l'utilisation des téléphones dans les trains, enfin voilà, c'est le temps qui est quand même perdu à scroller ou à regarder des vidéos de chat. Et ça, c'est abordé dans le bug humain aussi. Toute la partie, comment on scrolle, comment notre cerveau, en fait, il est nourri par ça, et comment... Et ça, c'est intéressant.
Et puis quand tu creuses, justement, quand tu sais à quel point c'est néfaste d'avoir un téléphone, à la fois pour toi, parce que ça te rend addict et gogol, à la fois pour l'environnement, parce que c'est 75 000 mètres cubes d'eau acide, c'est 70 matériaux qui sont... c'est 500 fois le poids du téléphone en matériaux qui sont extraits, hein, juste pour la fabrication. C'est l'impact que ça a sur le côté social, c'est 40 000 enfants qui travaillent dans les mines de Congo pour extraire nos minerais, là. 40 000, je le répète, 40 000. Vous imaginez, 1000 déjà, 1000 enfants. 40 000. C'est juste abusé. Et ça, pas de problème. Ouais, je me suis acheté un téléphone, pas trop mal. Mais ta gueule. Enfin, c'est juste pas possible. Et ça, c'est que les enfants. Et des esclaves, il y en a encore plus. C'est l'UNICEF qui faisait ce rapport-là. C'est juste glaçant, en fait. Donc, c'est rien par rapport à toutes les maladies qui sont faites par rapport aux eaux acides, à la malformation des nourrissons, les maladies respiratoires, etc. C'est un peu dingue, quoi. Qu'on s'autorise ça juste parce que, ouais, moi, je suis trop important, j'ai besoin de la 4G ou je sais pas quoi, n'importe quand, n'importe où, pour checker mes mails ou je sais pas quoi. Non, mais tu te détends direct. C'est non, quoi. C'est carton rouge, on ne devrait pas faire ça, quoi. Après, je vous fais pas la leçon à vous, c'est juste... se rappeler du cortex, quoi, et du striatum. C'est ce délire de se dire c'est pas du tout rationnel d'avoir un putain de smartphone dans la tête alors que dans la poche, pardon, alors que c'est pas comme si on était je sais pas quoi, médecin urgentiste ou ministre, enfin, tu vois.
Moi, c'est, enfin, je trouve que là, depuis quand j'ai arrêté, je trouve que c'est vraiment le temps aussi que ça prend dans nos vies, en fait, le temps qu'on passe à ça est quelque chose qui nous apporte pas forcément une plus-value, en fait, voilà.
Bon, bref, on peut passer au grand point d'après, c'était l'engagement pour la communauté. Donc, en gros, réinventer les vacances, réinventer Noël, diminuer notre impact écologique. Et le quatrième pilier qu'on a réussi à bien faire avancer cette année, c'est la communauté. Un peu décevant, comme on vous l'a dit plusieurs fois, au niveau de Jetting et Collectif, notre collectif citoyen, là, dans lequel Marion a été élue, et moi engagé dans le côté associatif. Un peu décevant parce qu'on n'a pas réussi à développer le collectif en termes de nombre de personnes, en termes de nombre d'adhérents et de personnes impliquées, engagées. On n'a pas beaucoup fait d'événements non plus. Par contre, on a un petit peu travaillé en tâche de fond, je dirais, sur des projets pas forcément très visibles. Évidemment, il y a Communo qui est relié autour de ce collectif-là. Hein. Il est dans les objets de l'association, hein, le fait de créer un outil qui permette de mutualiser du matériel, de faire des choses ensemble, de créer du lien entre les gens, mais aussi par rapport au potager collectif, du coup, qui a avancé pendant très longtemps dans l'ombre et puis qu'on a réussi à lancer en fin d'année, qui est un vrai succès. On y était encore ce matin. C'est hyper, hyper cool, quoi. Il y a une quinzaine de personnes qui est là très fréquemment et puis qui avancent ensemble sur un projet collectif et solidaire. Donc c'est trop bien, quoi. Rien que pour ça, je suis content d'avoir bossé un petit peu dans ce collectif-là. Toi, tu veux un petit peu parler de ton mandat d'élu, je pense.
Eh ben, on est à peu près à peine la moitié. On va rentrer dans 2023. Les prochaines élections, c'est début 2026. Là, on est un peu dans le creux, je pense. J'ai assuré ma mission d'élu cette année. J'ai participé, aux commissions, participé aux conseils municipaux. On a notre réunion d'élus toutes les semaines. Enfin, voilà. Mais à la fois, il y a une routine qui s'est installée. À la fois, les prochaines élections, elles paraissent loin. Donc, c'est difficile aussi de se mobiliser là-dessus. Et puis, on a un petit peu l'impression en tant qu'élu que quand même la majorité actuelle ne nous inclut pas vraiment. Hein. Les commissions ont été toutes avancées. Elles étaient plutôt autour de 19h. Elles sont maintenant à 18h. Sauf que quand on finit à Cholet ou à Nantes à 18h, bah, c'est difficile d'être à Jetigny à 18h. Ou même des commissions qui sont vécues sur le temps du midi. Donc, on a un peu l'impression d'être... on nous avait refusé cette année d'avoir un suppléant de notre liste minoritaire qui puisse... voilà, qui puisse intégrer les commissions. Et en plus, on a décalé les heures de commission, ce qui fait que voilà, c'est plus difficile de suivre cette mission-là. Voilà. Je pense que ce qui nous motive quand même, et c'est un travail là qu'on commence à faire aussi, puisque janvier, je pense qu'on repart sur des nouvelles choses avec le collectif, voilà, de se dire, bah, en fait, on peut déjà commencer à travailler ce qui arrive, on peut déjà commencer à réfléchir sur des sujets, on peut déjà imaginer des choses rien qu'en allant voir sur d'autres communes ce qui se passe. Donc ça, c'est assez motivant aussi de se dire, bah ouais, on va retravailler. Moi, ce que je trouve intéressant aussi dans cette mission d'élu, bah, c'est qu'au final, là maintenant, c'est des gens que je suis très contente de retrouver chaque semaine, avec lesquels on a des vraies discussions sur plein de sujets. On est pas toujours d'accord, même on est souvent en discussion et en échange, et moi ça c'est riche pour moi et ça me porte, ça me permet, je trouve, d'avancer sur plein de sujets variés et voilà, de se rendre compte que qu'on a des avis différents et qu'on arrive quand même par l'échange à pouvoir trouver des axes communs sur lesquels on veut avancer et avancer dans le même sens. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, donc à la fois, voilà, on est un peu dans le creux de la vague, et puis à la fois, il y a des choses intéressantes qui se profilent, donc voilà, les deux.
Ouais, c'est ça, on sait qu'on est dans le creux de la vague, et en même temps qu'il y a toujours quand même ce qu'on appelle un pépin, c'est une private joke, mais en gros, on a dit qu'il y avait un noyau, et puis on a dit qu'il y avait, en fait, ça ressemblait plus à un pépin, parce qu'on n'était pas si gros que ça, si nombreux, mais mine de rien, si, quand même, on est quand même une 10-12 à être très mobilisés, à être très motivés encore. Alors oui, c'est pas l'énergie débordante de la campagne municipale de 2020. Oui, on n'est pas 50 à se dire, ah putain, à rêver ensemble, mais bah, on est quand même une douzaine, et on a des envies identiques, et on va faire quelque chose en 2023. Donc ça, on va vous en parler juste après. Le dernier petit point dont je voulais parler, c'était avec Tuvalu, qui est mon entreprise, du coup, dans laquelle je travaille depuis depuis un an et demi, bientôt 2 ans. Le temps passe très très vite quand même. Non, je suis assez content de 2022, en fait, parce qu'on a réussi à avancer beaucoup sur les thématiques de gouvernance et sur les thématiques de justement de notre outil qui permet aux organisations de faire leur stratégie bas carbone et de RSE. Évidemment, c'est pour ça que j'y suis, hein, c'est pour essayer de faire avancer la société dans cette direction-là. Et voilà, je suis assez content parce que je réussis, j'ai l'impression en tout cas à utiliser une bonne partie de mon potentiel pour faire avancer cette organisation. Et donc voilà, je suis assez content. J'apprends aussi beaucoup de choses. J'ai l'impression que je suis pas du tout à stagner comme je pouvais l'être à Troopers. Donc ça me fait beaucoup de bien, en fait, de à la fois continuer à progresser, à être enrichi par mes collègues et compagnie. Donc ça, c'est cool, et puis je suis toujours très motivé par justement ce qu'on est en train de faire, des grandes évolutions au niveau de l'outil qu'on développe, de la méthodologie qu'on utilise, etc., qu'on a réussi à être très très innovant cette année. Donc tout ça, forcément, c'est de la... J'en ai pas beaucoup parlé forcément cette année, parce que ça peut paraître un petit peu différent de l'objectif de ce podcast, qui était de parler de notre famille militante, et puis d'avoir un petit regard plus perso. Mais en tout cas, le côté pro fait aussi partie de des choses que j'ai envie de noter dans ce bilan 2022. Voilà, on peut passer à 2023 et à donc les différents objectifs, les grands axes qu'on a envie de travailler pour cette nouvelle année qui commence. Alors, est-ce que tu veux parler du premier axe ?
Ouais. Alors, le premier axe, on l'a appelé « cultiver l'utopie ». Voilà, pas mal de choses là-dedans. Moi, c'est une idée qu'on va développer ensemble, mais voilà, qui me tient à cœur, et j'espère qu'on arrivera à mener. Je suis en train de travailler sur un planning de... Alors, ça n'a pas encore de nom, mais l'idée, c'est des week-ends à la maison, des week-ends ou des semaines aussi. Hein, vous allez voir qu'on va proposer deux formats. L'idée, c'est de, sur ces week-ends, d'avoir des gens qui viennent chez nous, qui adhèrent à notre projet et qui viennent pour se former sur une thématique. Donc, par exemple, il y aura une thématique autour du poulailler et de la gestion des poules à la maison. Monter en compétence sur un domaine d'activité. Et puis la deuxième idée, c'est que nous, on fasse avancer des chantiers qui sont peut-être un peu plus ambitieux pour nous deux et nos cinq enfants, et qu'on ait des bras, des mains, des compétences qui nous accompagnent là-dedans. Par exemple, si on reprend cette thématique du poulailler et des poules, on pourrait très bien imaginer sur ce week-end-là travailler sur l'extension de notre poulailler, le mode été de notre poulailler. Voilà, donc l'idée, ça serait vraiment de proposer des thématiques sur des week-ends avec à la fois du temps où on cuisine, on passe du temps ensemble, on joue ensemble, donc des temps plus festifs, des temps aussi où on discute sur des thématiques qui nous tiennent à cœur et qui sont importantes pour nous, des temps où on se forme. Voilà, où on prend le temps de monter en compétences, voilà, avec l'idée que nous, on ait préparé déjà de la formation en amont et qu'on puisse partager là-dessus. Et puis, des temps de chantier, donc là où on met un peu plus les mains, les mains dans le bricolage, et on fait avancer des choses qui sont importantes aussi pour nous et qui permettent aux gens de repartir avec des compétences acquises sur ce temps de week-end. Voilà, donc j'ai déjà plusieurs thématiques, donc les poules et le poulailler. Je pense qu'il y a quelque chose à travailler sur la verrière aussi, tout ce qui est autour des semis, du potager, il y a les bacs du potager là qu'on voudrait construire, j'ai identifié aussi des week-ends que j'ai intitulés collapso, je sais pas si vous vous rappelez de notre journée sans élec de l'année dernière, avec l'idée de se dire on va pendant un week-end enlever nos smartphones, on va enlever les lecs, on va cuisiner plutôt au feu de bois ou au solaire, on va revenir à l'essentiel. Donc bien sûr, ces week-ends-là, ils vont être tournés sur de la consommation bio locale de saison, ils vont être tournés sur du vivre ensemble. Voilà, on va pas l'ouvrir on va pas faire de la pub sur TF1. L'idée, c'est plutôt d'inviter nos amis, nos connaissances, ceux qui ont envie d'avancer sur ces questions-là, ou ceux qui ont envie juste de s'intéresser aussi à comment on vit.
Non seulement on va passer du temps un peu plus avec des gens sur des moments de qualité comme on a pu passer c'est ça qui t'a donné envie c'est quand on a fait le week-end mois de novembre avec Thibaut et Hélène avec Pierre et Noémie et du coup réussir à se dire en fait on aime, et puis ceux qui aiment pas en fait ils viennent pas, mais on aime mettre la main à la pâte, on aime travailler ensemble, on est fiers de ce qu'on fait, etc. Faisons-le ensemble, travaillons, rigolons, apprenons ensemble. Moi j'ai envie de vous faire partager mes passions autour du rucher qu'on va mettre en place. Des abeilles et des bourdons, etc. Il y a des choses à faire au niveau de la verrière, au niveau du potager, au niveau de...
Sur les thématiques, par exemple, moi, je verrais bien un week-end. Alors, tout est en construction, donc n'hésitez pas à envoyer aussi vos idées, un planning devrait sortir dans les semaines à venir. Moi, je pense qu'il y a les thématiques, nous, ça fait un peu plus d'un an maintenant qu'on vit sans frigo et sans congélo. Et clairement, je pense que maintenant, on a une expertise de ce qui marche et de ce qui marche pas. Enfin, on commence à avoir mis en place aussi des choses. Stérilisation des bocaux, qui fait partie comment on stocke notre alimentation. Enfin, voilà, avec la notion de régime végétarien derrière. Il y a tout ça. Il y a toute la partie autour du potager. Léni en parlait. Nous, on a un projet sur la verrière. On a un projet sur les bacs du potager. Il y a des choses qu'on peut monter, on peut vraiment monter en compétences et faire monter aussi des gens. Oui, il y a le potager 3P aussi, il faudra un peu de temps pour en parler. Une autre thématique aussi qui pourrait être importante à travailler, c'est la gestion de l'eau, c'est-à-dire comment on travaille la récupération d'eau sur nos maisons. Et comprendre, alors là vous allez me voir venir, mais sur la fresque du climat notamment, on aborde ces notions là quel est l'enjeu de préserver l'eau. On peut travailler toute la réflexion autour du zéro déchet. En fait, des thématiques, on en a 50 000. Hein, on va essayer déjà d'en proposer quelques-uns. Enfin, voilà, l'idée, c'est de se dire d'en vivre cette année de temps. Et donc, voilà, c'est un peu l'idée. Je me suis fixée février pour fournir un planning avec une notion d'inscription. L'idée, c'est pas d'être 50 par week-end, mais plutôt voilà, une ou deux familles, peut-être une petite dizaine. Enfin, voilà, d'arriver à avoir des temps. Il y a peut-être des sujets qui vont plus intéresser que d'autres. Voilà, c'est le cultiver l'utopie.
Et ça, c'était le premier point. Mais en fait, on en a parlé beaucoup, mais c'est parce que c'est le gros chantier de l'année, je pense. Les autres points vont être un peu plus rapides. Tu voulais parler justement de ton rapport au travail, ton métier de professeur. Quelle perspective ça t'ouvre aujourd'hui, en 2023? Qu'est-ce que tu as envie de pousser?
Et ben, en fait, alors moi, j'enseigne les sciences sanitaires et sociales. Et plus je creuse ce sujet-là, et cette année, en fait, je suis amenée à beaucoup creuser parce que j'ai repris le cycle terminal que je n'avais pas eu depuis 5 ans. Donc, il a fallu que voilà, je réadapte tous mes cours, enfin que je reprenne tout. Et j'ai trouvé ça intéressant de me dire qu'en fait, ma matière, eh ben, elle était vraiment en lien avec ces questions écologiques. L'environnement dans lequel on vit, eh ben, il va faire qu'on est en bonne ou en mauvaise santé, en fait. Et tout ça, c'est lié. Et j'ai vraiment envie de pousser ça, en fait, voilà, d'axer les programmes aussi sur cette découverte. On a des programmes, mais on a une liberté aussi dans nos programmes. En terminale, par exemple, le programme, il s'arrête en mars. Et après, on a une liberté à creuser les sujets qu'on souhaite. En tout cas, toujours en lien avec la santé et le social, mais il y a vraiment quelque chose. Et puis moi, j'aimerais vraiment faire un travail. Donc là, c'est plus autour du lycée. On a beaucoup abordé, là, on était sur la refonte de notre projet éducatif. Et notamment, on a rajouté un axe autour de ces questions écologiques et travailler la notion des éco-délégués, comment faire rentrer notre établissement dans quelque chose de plus vert, mais qui soit pas du greenwashing, mais vraiment du voilà, du qu'est-ce qu'on porte avec nos élèves. Par exemple, cette année, je suis en train de porter avec 4 autres collègues un projet de voyage à Lyon, où on va voyager en train, que en transport en commun. Voilà, alors c'est moins simple que d'appeler un transporteur et de traverser la France en bus, mais par contre, voilà, montrer aux élèves aussi qu'on peut faire des voyages sans polluer. Donc voilà, il y a tout un axe là que j'aimerais bien travailler. Ils n'ont pas besoin de moi pour prendre l'avion, donc ils iront s'ils ont envie, mais en tout cas, ils n'ont pas besoin de moi.
Toujours dans cette partie de cultiver l'utopie, je pense qu'il y a une partie qu'on aimerait développer également cette année. C'est alors essayer d'écrire, de créer, de réaliser un livre blanc, probablement un livre qu'on n'éditerait pas au format papier, mais qui serait disponible au format PDF gratuitement, etc., pour essayer de recenser un petit peu les bonnes recettes qu'on a identifiées pour avancer sur le côté bilan carbone personnel, familial. Tout ce qu'on a réussi à mettre en place et qu'on de l'intérêt, qu'on de l'importance, qu'on de l'impact, et par rapport à l'effort que ça demande, par rapport à tout ça, quoi, histoire d'essayer de montrer quel chemin éventuellement on peut prendre en tant que famille pour passer à l'action.
On avait imaginé le format fiche, voilà, des choses un peu le débutant et puis des choses qui sont plus complexes. Si on prend le régime végétarien par exemple, eh ben, c'est pas compliqué à mettre en œuvre, c'est pas compliqué, c'est pas coûteux.
Donc là, cette histoire de livre, ça suit un petit peu la voie de la petite voix, justement, l'histoire de continuer à avancer personnellement. Ça, c'est le deuxième axe, qu'on voulait creuser avec, en tout cas, le premier, moi, c'était le fait de mettre en place un rucher d'abeilles, évidemment. Et ça, du coup, pareil, ça pourrait être dans les week-ends chantier PEDA, ou en tout cas, peut-être pas sur un thème complet, mais en tout cas, évidemment, de vous montrer les ruches quand vous viendrez, avec grand plaisir, pour ceux que ça intéresse. Deuxième item, c'est un peu moins sexy, c'est changer de banque, parce qu'on est chez cette putain de BNP de merde, j'en ai marre. À chaque fois que j'entends parler de la BNP et de des catastrophes environnementales qui lui incombe, je me sens vraiment con. Et du coup, ça, il faut... On n'a pas beaucoup d'argent, c'est pas ça la question. C'est pas avec notre argent qu'ils investissent dans ICOP. Mais par contre, éthiquement, moi ça va pas. Donc il faut qu'on change de banque, il faut qu'on fasse aussi un prêt pour faire les travaux qu'on a besoin de faire, notamment pour remettre un système de chauffage dans cette maison quand même. parce que c'est je sais pas, mais ça a pas de sens de pas avoir de chauffage dans une maison, j'imagine. En tout cas, voilà. L'autre sujet, c'est de réussir à vendre cette voiture quand même.
On est pas mal là, en fait. On a zéro voiture en ce moment. Quand même. On paye les assurances. Par contre, on paye tout, mais voilà. Après, il y a le C4 qu'il va falloir vendre. Ça, on le sait depuis longtemps. Là, pour l'instant, au moins, il sert à quelqu'un. Enfin, il y a quand même ça. Il y a aussi, il va falloir prévoir peut-être un petit billet quand même pour remettre le camion. Déjà, il faut l'emmener au garage. Voilà, même si on ne souhaite pas utiliser le camion au quotidien, c'est vrai qu'on s'était fait beaucoup la réflexion sur du déplacement de matériel, notamment, enfin, comment on pourrait imaginer que ce camion il soit partagé, et plutôt que pour nous. Mais en tout cas, faut qu'on œuvre. En tout cas, en ce moment, le bilan carbone côté voiture, on est nickel.
Si tu vends la voiture, c'est de l'argent qui rentre et tu es capable de le mettre aussi dans autre chose, notamment pour les travaux et notamment dans le point d'après qui est d'équiper tout le monde en matériel de vélo premium. Moi, cette année, je me suis équipé en vélo premium, justement, ça change tout. Enfin, très clairement, tu te dis pas « Oh lolo, est-ce que je prendrais pas la voiture ?» quoi. Non, jamais, t'es content, tu fais ton truc, tu galères pas. Un vélo qui fonctionne vraiment bien, c'est cool. Avec ce qu'il faut, notamment en charrette, notamment en sacoche, notamment en matériel de visibilité et de protection, enfin voilà, tout ça. Faire en sorte que tous les petits, tous les plus grands aussi réussissent à prendre du plaisir aussi avec tout ça. Parce qu'en effet, faire du vélo avec du matériel pourri, ça donne pas envie. Donc équiper tout le monde en matériel vélo, ça c'est important parce que il faut donner quelque chose de raisonnable. Si tu enlèves les voitures, si tu enlèves tout ça, faut une possibilité de faire non pas tout ce qu'on faisait avant, mais en tout cas de continuer à faire les courses, de continuer à faire les trucs, on va dire, normaux.
Et puis le vélo, c'est aussi, on le sait, hein, c'est aussi le mode de déplacement pour partir en vacances. Ça veut dire que le vélo-train, clairement, il y a vraiment quelque chose à jouer là-dessus. Donc oui, c'est, si on est bien équipé, on n'hésitera pas à le faire non plus.
Enfin, puis voilà. C'est un investissement, au final, ça dure longtemps, les vélos comme ça, en général. Alors pas forcément pour les petits, mais on va pas non plus acheter des vélos à 1000 balles pour les petits. Hein. Mais en tout cas, remettre tout d'aplomb et puis voilà. On passe au troisième et dernier pilier, c'est continuer à résister et à réinventer le monde. Voilà.
Notre monde déjà.
rebooster le collectif, là on a déjà commencé à redonner un peu de tempo sur le collectif, donc ça c'est cool. Notamment sur le fait non pas de commencer à se préparer pour 2026, mais en fait... un petit peu quand même, dans le sens où on aimerait savoir ce qu'on aimerait proposer pour Jetinger, pour essayer de réinventer le monde, se redonner une image de ce que doit être la ville de demain, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on a besoin, combien ça va coûter, etc. Essayer d'être le plus exhaustif possible, et donc ça va être, ça va forcément être sur les deux prochaines années que ça va se jouer. Et puis, continuer le potager collectif, évidemment, c'est lancé, c'est bien lancé, mais évidemment, à un moment donné, il va falloir progresser encore là-dessus. Il y a pas mal de choses en construction, notamment des spirales aromatiques, peut-être un potager 3P, j'en ai parlé ce matin, ils étaient enthousiastes justement à cette idée-là. Si vous ne connaissez pas, c'est pas très grave, mais c'est un type de potager un peu permaculture, de plantes permanentes qui permettent d'avoir un peu d'abondance en continu et puis sans s'en occuper, quoi. Bref, ce genre de choses, continuer à progresser aussi sur cette thématique-là, faire un peu ce qui a été source de frustration cette année, c'est continuer d'animer la vie citoyenne. Cette année, il n'y en a pas eu beaucoup, il y en a eu trois, je crois, mais c'est des événements, des agoriums, des fresques, du climat et compagnie. Donc voilà, ça, il faut vraiment qu'on réussisse à faire un peu plus de choses comme ça pour que le collectif il vive et qu'il serve à quelque chose un peu plus. Et puis, le dernier point,
peut que finir par
c'est ça. Un running gag, mais ça avance, je m'en fous, je vous emmerde. Non, c'est Lancer Communo. Communo, je vous rappelle, c'est une plateforme sur laquelle je travaille depuis un an, une plateforme numérique que je travaille depuis décembre 2021. Le principe, c'est de réussir à donner un outil pour arrêter d'acheter son matériel et plutôt de soit le prêter si on l'a déjà acheté, soit le louer, soit l'emprunter à des gens, à des cercles de confiance, et du coup réussir à se dire que bah oui, autour de là où on habite, bah il y a un communo, et du coup on peut y aller, on peut se dire ah, putain, j'ai besoin d'un broyeur de végétaux tel moment, ok, ça va me coûter 15 balles, ou alors que c'est gratuit parce que c'est mon beau-frère et puis parce qu'il l'a mis sur la plateforme. Et donc voilà, ça, il faut que ça sorte, ça avance, mais voilà, ça va se... j'arrête de mettre des dates là-dessus parce que ça marche jamais, je suis jamais assez satisfait de la qualité du produit pour réussir à le lancer, mais ça va arriver cette année, c'est sûr, et puis il va falloir que je le lance. Voilà, l'idée, ce serait de réussir à lancer ce genre de produit en tant que commun, et du coup avec un organe de gouvernance qui serait pas juste moi et les membres d'un bureau, mais plutôt des gens un peu éparpillés un peu partout, et du coup voilà, il y a tout un sujet autour de ça, mais ça m'intéresse pas mal, donc voilà, là on s'arrête et on va faire un tout petit truc pour la fin, pour vous parler un petit peu de ce podcast, de La Petite Voix, de faire un petit bilan sur ce podcast rapidos, et de parler un petit peu de son évolution. Tu veux parler de quelques petits mots pour parler un petit peu du bilan du podcast, Marion ?
Voilà, ça fait une année, on a produit 12 podcasts, donc c'était l'objectif qu'on s'était fixé. Voilà, c'est toujours un temps important du mois, prendre le temps déjà de le préparer, de le faire. C'est du temps que Lénie prend aussi pour monter derrière. Voilà, moi je trouve que ça... Il y a eu beaucoup d'aspects très satisfaisants, notamment le fait de pouvoir être vrai sur les sujets qu'on partageait, de pouvoir en discuter du coup avec les gens. Des fois, c'est assez étonnant parce qu'ils connaissent des trucs de notre vie, on se dit « Oh mince !» En fait, on avait dit ça, oui, on avait dit ça. Voilà, donc c'est chouette. À la fois, on sait que ça a été... difficile, voilà, parce qu'on a partagé aussi des choses dans nos relations avec les gens qui n'ont pas été simples après à gérer, et d'ailleurs qui sont toujours pas forcément revenus à l'apaisement, donc voilà, il y a encore des choses, on sait que ça a été un élément déclencheur quand même de partager, en tout cas on se doute, on pense. Voilà, c'est un temps à la fois que, enfin moi j'ai beaucoup apprécié prendre ces temps-là, j'ai apprécié le partager, c'est quand même aussi beaucoup de temps, mine de rien, qu'on a pris pour ça, donc ça prend beaucoup d'énergie, il faut un peu de temps pour le préparer, pour le monter, donc il y a tout ça derrière. Voilà, moi j'ai l'impression d'être un peu au bout sur la partie, moi j'ai l'impression des fois de chouiner un peu, enfin voilà, sur les patinages, je sens que dans la forme il y a des choses qui aujourd'hui me conviennent plus forcément, enfin en tout cas j'ai envie de plus de, alors pas de légèreté parce que c'est pas ça l'idée, mais voilà, de moins d'animosité peut-être, voilà, une façon de le dire. Voilà, donc en tout cas, nous, on s'est dit que c'était intéressant que ça évolue et que ça reste pas dans l'état. On a fait un an comme ça, on a passé des bons moments, il y a des belles choses qui en sont ressorties, et on est content, je pense qu'on sera content aussi de pouvoir les réécouter dans quelques années, peut-être. Voilà, c'est une belle aventure. À la fois, on voulait pas non plus se détacher du podcast complètement, parce que c'est un exercice qu'on aime quand même, et voilà, et qu'on... Et vu les échanges et les partages qu'on a eus, on sent que ça résonne aussi chez des gens. Donc voilà. Donc on sait pas. On n'a pas encore trouvé la forme qu'il allait prendre. On s'est dit que, en tout cas, il serait plus mensuel, qu'il serait peut-être plutôt quelque chose de trimestriel ou sur une thématique donnée. Donc voilà. On se donne pas tellement de dates butoirs pour l'instant. On se dit qu'on se laisse encore quelques semaines voilà, pour voir ce qu'on veut en faire, comment le faire évoluer. Donc voilà, il faudra attendre le prochain épisode pour...
Non, mais voilà, je pense que ce sera beaucoup plus ponctuel et puis thématique. Là, on a parlé des week-ends un peu chantier pédagogique, de convivialité, là, conviviaux. Probablement que ce sera pour faire des sortes de bilans de ce truc-là, ou alors on en tournera un avec les gens qui seront là. Enfin, pas redire ce que tu as dit, mais par contre, le fait d'économiser le temps qu'on passe, notamment à faire le montage et aussi préparer ces trucs-là, c'est pas du temps de perdu, c'est pas ça, on est très content, mais par contre, c'est du temps aussi, du coup, que tu peux passer un peu plus sur l'écriture d'un livre pour continuer à développer Communo, ou alors se mettre un peu plus sur le temps des associations, etc. Donc voilà, on est très content réellement d'avoir pu partager cette année avec vous. Merci aussi beaucoup à tous ceux qui nous ont fait des super retours. Des fois, le micro était mal comme au mois de novembre, on s'est planté sur l'enregistrement. Du coup, c'était avec le micro de l'ordinateur. Des fois, on parlait mal dedans, etc. etc. On n'est pas du tout des professionnels du podcast. On sent qu'on a fait bouger certaines personnes. On sent que ça nous a aussi aidé à peut-être à être plus rigoureux aussi à certains moments où des fois t'es happé par le quotidien, etc. Et puis tu dis non, mais là il y a quand même le podcast, on est déjà le 5 du mois, il faut qu'on l'enregistre. Donc ça a poussé quand même, donc pour tout ça on est assez satisfait. Ouais. C'est l'heure de la dernière, l'ultime lecture. Et du coup, je te laisse introduire la lecture que tu vas nous lire aujourd'hui.
Alors, voici l'extrait du Bug humain. On est plutôt vers la fin du livre, le dernier tiers à peu près. Et le chapitre s'appelle « Action du cortex, action du striatum ». Voyons le cerveau humain comme un assemblage de plusieurs modules. Le premier de ces modules, très ancien à l'échelle de l'évolution des êtres vivants, est le mésencéphale, situé à la jonction entre le cerveau et la moelle épinière. Il gère des fonctions essentielles à la survie, manger, se reproduire, dominer, chercher les comportements les plus économes en énergie. Le second, le cortex, élabore des représentations mentales, communique avec ses semblables, planifie des actions, conceptualise. Autant vous dire qu'il n'y a rien de commun entre ces deux individus. S'ils se retrouvaient à la même table le temps d'une soirée, ils n'auraient sans doute rien à se dire. Le premier n'a même pas de conscience. Quant au second, il pourrait soulever des montagnes tant sa puissance est immense. Mais il n'a pas d'objectif clairement établi. À vrai dire, la situation n'est pas à proprement parler celle d'une bonne tablée où les convives se réuniraient à une heure convenue à l'avance. Il y en a un qui triche. Le striatum est venu longtemps avant tout le monde. Il a pris la place centrale. Lorsque des millions d'années plus tard, les premières formes 5 de cortex se sont invitées à la fête, il les a vite mises au pas. Le petit cortex de la souris a dû s'employer à aller chercher du grain pour le plat de résistance, le plus volumineux cortex du macaque s'en est allé chercher de larges cargaisons de fruits bien mûrs, puis le cortex géant de l'être humain a été sommé de cultiver la terre pour l'exploiter plus efficacement. Il y a quelque chose de très étrange chez le striatum. Bien qu'ayant vécu pendant des millions d'années, il est toujours très impatient. Il veut que tout lui soit donné le plus vite possible. Au début, la cohabitation avec le cortex est donc difficile. Celui-ci n'inventera pas tout de suite le café instantané et les applis téléchargeables à la seconde. Il commencera par des pointes en silex, qu'il s'agit de tailler pendant des jours avant de partir en chasse, et avec beaucoup de chance, attendre encore des jours avant de ramener un peu de viande à la grotte. Que la traversée du paléolithique est pénible. Avec le néolithique, ce n'est guère plus brillant. Quand le cortex invente l'agriculture, il se met en tête de planifier les récoltes, de garder assez de nourriture pour passer l'hiver et de semailles pour ensemencer les champs l'année suivante. Le striatum s'impatiente. Pourquoi n'avales-tu pas ces réserves tout de suite? Regarde comme elles sont appétissantes. Certes, mais on vit alors dans des sociétés où les parents apprennent aux enfants à compter sur la vie. Les anciens plantent des arbres qu'ils ne verront pas atteindre leur taille adulte et dont les petits-enfants seuls jouiront de l'ombrage. Les hommes de village édifient des fermes et des bergeries qui profiteront à leur descendance des décennies plus tard. Le striatum vit des moments difficiles, mais que sont 1000 ou 2000 ans lorsque l'on a déjà vécu 500 millions d'années? À peine un battement de paupières. Alors, lorsqu'il se réveille vers la fin du XXe siècle, le striatum n'en croit pas ses yeux. Le cortex a inventé des tas de choses épatantes. Le distributeur de boissons gazeuses, les plats tout préparés qu'on réchauffe en 30 secondes au micro-ondes, le TGV, et même ce truc de dingue, Internet. Vous pouvez commander n'importe quoi en appuyant sur un bouton. Vous l'avez dans la journée, parfois même dans l'heure. Les ordinateurs sont des objets formidables. Vous pouvez faire apparaître toutes les images les plus excitantes que vous désirez en quelques secondes. Alors c'est bon, le cortex peut enfin cesser de faire attendre le striatum. Il n'a plus aucune raison de le faire. Les fibres nerveuses du faisceau frontostriatal n'ont plus besoin d'être renforcées. On peut enfin se reposer et laisser cet animal jouer tout seul dans son coin. Le cerveau peut enfin se passer d'un système fatigant dont la seule fonction est de rappeler sans arrêt au striatum de patienter. La moralité de tout cela est, lorsque vous vous habituez à voir tout instantanément, vous perdez la fonction physiologique qui permet de renoncer à quelque chose maintenant au profit d'autre chose plus tard. Je vous propose d'aller lire le bug humain pour avoir la suite qui s'appelle, le chapitre suivant s'appelle le règne de l'impatience. Bonne soirée! Y perderte después.